Un conseil, madame, un conseil, monsieur.
Le mardi.
Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez...
de la culture.
Car il faut manger, manger, manger le mardi. Avant que ce soit les radis qui nous mangent, il faut manger, manger, manger
le mardi.
Et des tas de laitue et des tonnes de pissenlits.
Nous avons fait un repas absolument charmant avec deux stars de la BD, on peut le dire.
Deux stars, je ne sais pas s'ils aimeraient ça qu'on dise deux stars, deux éminents en tout cas, dessinateurs, auteurs, éditeurs même pour l'un, hein, c'est Lewis Trondheim, et Guy Delisle, le franco-québécois.
On sait même qu'ils n'aimeraient pas ça parce qu'il en est question dans l'émission justement de cette non-starification du milieu de la BD qui est encore importante et qui permet sans doute de structurer de l'intérieur ce milieu qui... s'il était passé à l'heure de la starification, ce serait sans doute démantelé et bouffé de l'intérieur.
Comment il dit, le charmant Trondheim, ça nous permet de pas nous engueuler.
Ouais, exactement. Et donc, c'était à l'Artichaut, un restaurant bien connu à Montpellier, qui est non loin du café Le Novelty. C'est à peu près le seul repère que j'ai à cet endroit.
Est-ce que les Halles les Sacs, tu fréquentes pas, toi?
Les Halles les Sacs, non, les Halles Castellane, tu
veux dire. Les Halles Castellane, ouais, c'est vrai.
Donc, à côté des Halles Castellane, un très bon restaurant tenu par un excellent garçon.
Laurent Poffer.
Laurent Poffer, que l'on connaît peut-être mieux sous son autre identité, celui qui a tenu et fondé le Saléa, place du marché aux fleurs. L'Artichaut nous a reçus pour une soirée. Cette soirée, on la découpe en trois épisodes. Ça commence ce soir. On se retrouvera mardi prochain et celui d'après. Et comme à notre habitude, l'intégrale sera écoutable et podcastable dans trois semaines. L'intégrale, c'est-à-dire une heure et demie, en compagnie de Guy Delisle et Lewis Trondheim. Mais pour l'heure, c'est une première demi-heure.
Une première demi-heure carnet de voyage, hein. C'est plutôt leur biographie là, dans cette première demi-heure. Qui sont-ils? Comment se sont-ils rencontrés? Est-ce qu'ils s'aiment ou est-ce qu'ils se tapent dessus quand ils se voient? Vous saurez tout ça en 30 minutes chrono.
30 minutes chrono. Oui, ben ouais. À bientôt les amis.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Un conseil, madame, un conseil, monsieur.
Le mardi.
Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez...
de la culture.
Car il faut manger, manger, manger
le mardi.
Avant que ce soit les radis qui nous mangent. Il faut manger, manger, manger
le mardi.
Et des tas de laitue et des tonnes de pissenlits.
Ça veut pas si c'est pas des nouilles.
Que va-t-on manger?
Des beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des laitues, des oignons puis des concombres.
Il est l'heure de mardi, miam miam!
Miam miam miam, les bons beaux légumes, miam miam miam, j'ai hâte d'en manger!
J'ai une petite faim, moi, où on va?
On va à l'Artichaut, un restaurant du centre de Montpellier.
L'Artichaut, ce restaurant tenu par Laurent Poffer, qui était aussi l'ancien patron du bien connu Le Saléa.
Bien sûr, rappelle-toi, c'est sur la terrasse du Saléa l'an dernier, avec Laurent Poffer, que nous avons imaginé les mardis miam miam.
On n'avait pas imaginé que ça, ce soir-là.
C'est vrai, la terrasse du Saléa, c'était un endroit où on imaginait plein de choses.
Et qui allons-nous retrouver ce soir?
Nous allons retrouver deux grands noms de la bande dessinée française, Guy Delisle et Lewis Trondheim. Ils habitent tous les deux à Montpellier. Et ils nous ont concocté un petit voyage entre tapas dessinée et petit rien gastronomique.
Ou l'inverse.
On verra bien.
Il n'est pas possible, dans les limites de ce disque, d'envisager tous les problèmes de la théorie de l'information. Notre prochain disque vous fera pénétrer plus profondément dans le domaine de l'électrophysiologie de l'audition, au niveau des voix et des centres nerveux.
Messieurs Trondheim et Delisle, on se retrouve à l'Artichaut, un restaurant que vous ne connaissez pas d'ailleurs, je crois, ni l'un ni l'autre.
Non, nouveau.
Oui, bonsoir. Non, on ne connaissait pas du tout.
Pourtant, ça fait un petit moment que vous fréquentez Montpellier.
Ah mais moi je suis un ours, je reste chez moi, je travaille, je dessine, je suis avec ma famille, si je sors c'est l'enfer.
Moi c'est un peu pareil, je travaille moins mais j'ai la famille donc je connais les restos qui sont à moins d'un kilomètre alentour de chez moi ou même pas. Et non, il y a 15 ans, oui, je les connaissais tous quand j'étais célibataire, mais là, non.
Il faudrait peut-être t'arrêtes d'être marié, comme ça, si t'étais célibataire de nouveau, tu pourrais faire plein de restos.
Parce que Guy fait les restos quand il est en voyage, en fait. Et
Moi, je fais les restos seulement quand on me propose des entrevues, autrement je reste chez moi.
Alors là, il a dit effectivement entrevue, parce qu'il est québécois. Nous, on dit jamais entrevue.
C'est vrai, on dit interview, c'est couillon.
On est vraiment des cons.
C'est plus cool, ouais.
Tu es en France depuis quand, Guy ?
Oh, ça fait un bon bout de temps, hein, parce que je suis arrivé, ça fait presque 20 ans maintenant. Donc en fait, maintenant, j'ai passé la moitié de ma vie en France. Donc je suis un vrai franco-québécois.
T'as essayé de perdre tout l'accent ?
Moi, je perds l'accent très rapidement. Ouais. Ça a fondu au soleil en venant ici. Quand je retourne là-bas, ça revient. Quand je bois un petit peu, ça revient. Mais si je rencontre un Belge, je vais choper l'accent belge rapidement. Ouais. Et j'allais en vacances en Gaspésie. Je revenais quand j'étais jeune avec l'accent gaspésien.
C'est encore mieux parce que quand je bois, je prends pas l'accent, mais je prends la langue. Quand je bois avec des Chinois, je parle chinois. Je parle vraiment chinois.
Et tu t'engueules avec eux et ça se termine en chinoiserie.
Les oui, ils parlent norvégien.
Ça voulait dire bonjour à tous, amis norvégiens, je vous aime, je vous adore, lisez mes livres. La langue norvégienne est très complexe, très compacte. Samholdet unnslapt, eller ble utsatt for unntatt av unntakene. Vi utsatt for usanne utsagn og brutale budskap. Og du satt i Newcastle uten alt dustprat. Da det som om Gud skapte gutteprat som apparat. For akkurat når du satte kursen du kan utenat. Glemmes det de andre kaller ut.
Pour revenir un petit peu, pour resituer votre rencontre à vous deux.
Alors moi, ça date... c'était mon premier Angoulême, ouais. J'avais lu un Patte de Mouche que Lewis avait fait. Et à ce moment-là, j'étais prof d'animation ici à Montpellier, à Celle-Neuve. Et on avait travaillé sur un de ces Pattes de Mouche qui m'était tombé dans les mains par l'entremise d'un ami. Et après, j'avais vu Lewis à Angoulême.
Il faut préciser, Pattes de Mouche, c'était une collection à enfin, c'est toujours une collection à l'association, un petit format qui fait 22 pages, genre ça tient dans la main.
Ouais, voilà, c'était Lapinot. C'était ton premier, j'imagine, en fait. Hein. Et puis, je l'avais croisé là-bas, j'avais dit que j'avais bien aimé. Hein. Et ça me fait rigoler, parce qu'à cette époque-là, il était fait tout seul à la table de l'association, inconnu. Et
j'avais des cheveux.
Ouais, il était blond, ouais. Je me rappelle d'un blond avec des cheveux. Ouais.
Mais tu n'habitais pas encore à Montpellier, Lewis ?
Non, j'étais parisien à cette époque-là. Mais je n'ai pas de ce souvenir de cette rencontre. Je me souviens quand je suis venu à Montpellier la première fois. Moi, j'habitais à Paris longtemps avec ma femme, quand on a décidé d'avoir des enfants. On a vécu 2 ans pas loin de Carpentras. Et comme c'était vraiment trop la campagne, on n'en pouvait plus. Il fallait trouver une autre ville et je suis venu une après-midi à Montpellier pour voir. Et je suis resté le soir parce que dès le lendemain, j'avais des rendez-vous pour voir des maisons. Et je savais qu'à Montpellier, il y avait De Crécy et Guy Delisle. Guy Delisle qui était déjà publié à l'association.
Comment on peut expliquer, selon vous, quand même, qu'il y ait autant de dessinateurs à Montpellier ? Parce que là, vous en citez deux.
Il n'y en a pas tant, en fait. Parce que quand je compare à Bordeaux, où il y a un paquet de gens...
Ou à Rennes, même.
À Rennes, ouais, il y en a un sacré paquet à Montpellier.
Pourtant, Rennes, il fait pas très beau.
Ouais, alors que Montpellier, c'est quand même une destination assez intéressante pour quelqu'un qui est indépendant. Je trouve qu'il n'y a pas tant de dessinateurs que ça. Hein. Parce qu'on a monté un atelier, mais on a essayé de faire le tour un peu des dessinateurs qui étaient là, et il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Les quelques-uns restent dans leur coin à fumer des clopes et à travailler sur leur table, et ils ne veulent pas être en atelier. Ouais.
Les quelques-uns, c'est qui ? Il y a Matt Conture ?
Il y a moi, il y a Lewis, il y a Son, le Norvégien, fameux. Et à part ça, il y en a d'autres.
Dans ton atelier, il y en a quand même quelques-uns.
Oui, il y a Raph qui est une mangaka à l'atelier où je suis. Il y a Bill qui fait de la BD. Et c'est tout, hein, voilà.
Il y a Fabrice Tarin qui a fait un Spirou, qui s'est installé ici depuis 2 ans. Il y a Fred Neddart qui s'est installé ici il y a environ 1 an. Il y a Patrick Jussomme qui fait une série qui s'appelle Tramp chez Dargo, qui est là depuis 5-6 ans. Il y a Olivier Vatine qui vient de s'installer là depuis septembre dernier. Il y a de plus en plus de gens qui viennent quand même.
Ouais, c'est bien. Après un mouvement de repli sur Paris, maintenant, ils redescendent sur Montpellier. C'est bien. Hein.
Mais c'est vraiment une ville que les dessinateurs abordent pour vivre, mais il n'y a pas tant d'activités. Il n'y a pas une actualité brûlante autour de la BD à Montpellier. Il n'y a pas de grosses manifestations phares.
Bon, entre ici ou Rennes ou aller en Bretagne quelque part, il y a beaucoup de Parisiens qui veulent se délocaliser, surtout quand ils sont en famille. Donc à ce moment-là, je sais pas, Montpellier, ça me paraît une destination assez accueillante.
Mais ici, il y a quand même aussi un salon du livre qui est pas mal, la Comédie du Livre en mai. C'est bien parce que ça lie à la fois la littérature et la bande dessinée, c'est plutôt agréable. Ça se passe sur la place de la Comédie et l'Esplanade. C'est assez chouette. Il y a un autre festival de BD en septembre à Odysseum en ce moment pour essayer de faire venir les gens à Odysseum. Comment dire bon courage. Oui, tant mieux, oui.
Mardi.
Miam, miam.
Qu'est-ce que vous nous présentez là ?
Alors, c'est un carpaccio de Saint-Jacques avec caviar d'aubergine et poulpe au piment d'Espelette en version tapas. Vous allez goûter plein de petits plats comme ça de la maison.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Voici. Consommer des charmins de poulet sur son lit de salse pareille, sur péninsule ibérique.
Mélimélo et farandole de poussin cru au poil d'hippopotame.
Bon appétit.
Bon appétit. Je vais le faire comme ça. Bon appétit.
Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.
Donc, ce soir à l'artichaut, nous serons voilà, dans le picorage. On va avoir un panachage d'un peu toutes leurs spécialités.
Est-ce qu'il faut décrire un petit peu ce qu'on mange ?
Ah, c'est ça, oui.
Des petites assiettes carrées, transparentes. La couleur générale est plutôt brun clair, brun foncé. Il y a un petit peu de rouge qui se dégage avec une sorte de... Peut-être un légume, je vais goûter. Oui, c'est un légume, mais... À part la couleur rouge, je ne pourrais pas dire ce que c'est. Hein. Peut-être du navet qui a été... Peut-être des sortes de pousses de soja, mais des pousses d'autre chose. Il y a des petits filaments rouges.
Petits filaments rouges,
oui, c'est quoi?
C'est le fil qui est au bout de la betterave.
La moustache de betterave.
La nourriture, c'est quelque chose d'important chez vous?
Comment dire? Moi, je suis canadien. Au Canada, c'est pas la même éducation au niveau des papillons. Moi, j'ai pas été élevé dans les goûts, s'arrêter sur les goûts. D'une façon générale, voilà, on bouffe et puis quand c'est bon, c'est pas mal. Mais en fait, c'est assez différent. C'est pas élevé au rang d'art, en fait. Pas vraiment. Peut-être plus aujourd'hui, parce que maintenant, quand je retourne 20 ans après, il y a quand même eu beaucoup de changements à ce niveau-là. Et ça devient une petite France en Amérique du Nord, quand même, le Québec, au niveau de la bouffe. Mais voilà, mais j'ai appris beaucoup en étant ici, parce que entouré de gens qui s'émerveillent sur un carpaccio de machin, et puis un truc, voilà. Et c'est bon, c'est une richesse, et c'est ça qui est intéressant de changer de culture, c'est que ça s'additionne. On n'oublie pas sa culture, mais il y en a une de plus qui se rajoute, et ça, c'est intéressant.
T'as eu aussi de nombreux voyages assez longs. C'est des moyens de toucher à des cultures très différentes.
Quand on va en Chine et qu'on n'aime pas la bouffe, on est malheureux parce que franchement, là-bas, c'est les Chinois ont avec les Français l'amour de la bouffe. Enfin, ils adorent manger. Et quand ils mangent, ils parlent de bouffe comme les Français. Et ça tourne toujours alentour de ça. Et voilà, c'est un plaisir d'aller dans le sud de la Chine, de manger à Canton, parce que tout est vraiment très bon et les gens, ils vivent que pour ça.
Mais j'ai des souvenirs dans Pyongyang, par exemple. Il me semble qu'il y a des petits souvenirs du restaurant dans lequel t'es. Là, c'est pas terrible. Hein.
Pyongyang, non, c'était pas ça. Non, mais bon, ils se sortaient d'une pénurie alimentaire qui a fait vraiment dramatique. Donc, ils avaient maintenant un peu plus d'aisance. Mais tout ça était vraiment pas très glorieux. Donc nous, au restaurant, on avait la chance de bouffer trois fois par jour, ce qui était quand même pas mal. Tout ça était sur fond de tristesse, pas mal. Donc c'était pas très glorieux. Tout était frit et dans l'huile. Il y avait une carotte par-ci par-là, mais c'était pas terrible.
Mais tu parles quand même toujours de nourriture dans tes albums. Il y a toujours un moment où ça revient.
Ça fait partie quand même d'un voyage. On fait voyager... Avec les papilles gustatives, c'est une bonne façon de découvrir un pays, hein, je crois. Moi, maintenant, je suis assez sensible à ça. Et je suis assez curieux aussi. Ça ne me dérange pas d'essayer tout ce qu'on me présente.
Et toi, Louis ?
Quel rapport tu as à ça ? Dans ton œuvre, on peut pas dire que la nourriture soit omniprésente.
Non, je suis pas. Comment dire ? Je suis pas. J'aime bien manger, mais j'en fais pas une fixation. Quand je vais dans un pays étranger, j'ai plutôt tendance à prendre du poulet. Et à me cantonner à ça. Et puis voilà, moi, j'ai peur. Voilà, j'ai un peu peur pour mon estomac et de passer du temps sur les cabinets plutôt que de passer du temps à dessiner les bidonvilles.
Ça, c'est l'obsession des cabinets qu'on retrouve dans ce truc que tu n'as pas écrit dans le blog de Frantico. Il y a énormément de séquences avec les cabinets.
Oui, je ne l'ai pas écrit, mais je suis très, très anal, effectivement. le caca, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je peux en rire, je peux en pleurer, je peux en parler des heures. Le caca, ça fait vraiment partie de la vie. Et je crois que c'est comme la mort. On parle trop peu de la mort et on parle trop peu du caca. Il faudrait s'y pencher un peu plus. Et, c'est ce que j'essaie de faire dans mes bandes dessinées. En tout cas, je parle un peu de la mort et du caca. C'est difficile d'enchaîner après ça. Hein.
On n'a jamais chanté ni écrit que je sache le moindre mot d'amour, la moindre dédicace, ni élevé de statues, ni dressé de portraits. On n'a jamais écrit sur toi, pauvre rejet. Oui, toi, le résidu de ce que nous mangeons. Toi, compteux et discret, jamais ne regardons. Lorsque l'on t'évacue sans regret, sans remords. Toi qui fus humblement le moyen de transport, matière véhiculant, élément nourrissant de tout ce dont le corps a besoin chaque instant pour réfléchir, agir, aimer et respirer. Toi qui fus nourriture après t'avoir vidé de ta substantifique et nourrissante essence, comme nous t'abandonnons sans la reconnaissance que tu mériterais et que je t'offre ici, dans cette chansonnette qu'à toi seul je dédie. Même si je sais bien que je prêche en pure perte, je le dis, le caca ce n'est pas de la merde.
J'ai un dessin très simple parce que je dessine mal à la base. Mais l'avantage, c'est que mon dessin est très facilement adaptable en bande dessinée, en animation, pardon. Et donc, j'ai eu beaucoup d'adaptations qui ont été faites très rapidement. C'est-à-dire qu'en 1995, il y avait déjà La Mouche qui se faisait pour la télévision. Puis après, Kabuto Zoski. Peut-être aussi les pitchs étaient intéressants. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai tout de suite été très vite adapté. Mais pour moi, ce n'était pas un but. Je savais à la base que l'endroit où on avait le plus de liberté, c'était la bande dessinée. Et il s'avère que maintenant, quand je vois des copains comme Johan Sfar, comme Riyad Satouf, qui font du cinéma, ou Marjane Satrapi qui fait du dessin animé pour le cinéma, oui, bravo, c'est très bien, mais je ne suis pas du tout envieux, en fait. Je sais que c'est beaucoup de travail, beaucoup de labeur, beaucoup d'argent, beaucoup de consensus, et je ne suis pas le roi des consensus.
C'est marrant, je me suis toujours posé la question si ça te faisait pas envie d'aller faire un tour du côté cinéma vu ce que d'autres ont fait à côté. Mais moi, c'est un peu la même réponse en fait, parce que moi je viens du monde de l'animation, donc on m'a pas proposé vraiment d'adapter mes bouquins en dessin animé. En fait, il y a un vague projet qui est en train de se faire, mais ça traîne beaucoup. Mais ça me fait pas rêver parce que je viens du monde du dessin animé, donc c'est pas pour moi quelque chose de magique où tout se fait tout seul. Je sais que c'est un énorme truc à pousser. Il faut une équipe, il faut un budget monstrueux. Et puis t'es en train de faire des concessions constamment sur ce que t'imagines et ce que t'auras au résultat. Ce qui prime aujourd'hui, c'est la liberté artistique et d'être devant avec mon crayon, ma table de travail. Je peux faire ce que je veux. Il n'y a personne qui va venir me faire chier en me disant « Ah non, là, ça passera pas, ça vendra pas ou tout ». Après, il faut que je vende le bouquin, mais bon, ça va encore aujourd'hui pour moi. Alors, c'est une liberté qui est vraiment, pour moi, totale. L'animation, ça serait moins totale comme liberté. Alors, ça ne me fait pas tellement envie. Ouais.
En fait, il y a une vraie dichotomie dans la tête des auteurs de bande dessinée, à mon avis, qui est du fait que la bande dessinée est quelque chose qui est de mieux en mieux considéré, mais malgré tout, ça, dans l'esprit des gens, de la plupart des gens, c'est quand même pour les enfants, c'est un truc pas très très intelligent, il y a peu de presse, on ne voit pas à la télévision, ou alors très rarement, ou alors certaines personnes qui savent bien parler, et donc il y a une frustration qui se fait à ce niveau-là, et se tourner vers le dessin animé ou le cinéma, c'est, ça peut être considéré comme une compensation à cette frustration. Mais il ne faut pas... faut pas tomber dedans, et je pense que Johan Sfar ou Riyad Sattouf ne sont pas tombés dedans, ils ont fait ça d'une autre façon.
Tu as pas l'impression, vous avez pas l'impression quand même que ça a beaucoup changé cette situation, c'est-à-dire de l'aura médiatique qu'il y a autour de la BD, c'est un secteur qui fonctionne quand même énormément, j'imagine que depuis que vous avez commencé, ça a quand même vachement évolué.
Oui, mais depuis 20 ans, oui, effectivement, ça a évolué, mais c'est... Tu connais beaucoup d'émissions de télévision qui parlent de bande dessinée, vas-y, cite-moi. Mais heureusement, heureusement qu'on nous fout la paix. Heureusement qu'il n'y a pas des paparazzis. Heureusement qu'on n'est pas médiatique. Parce que sinon, ça changerait tout. Ça nous pourrirait la vie. On ne s'entendrait pas entre nous. Il y aurait des jalousies. Ça puerait. Alors que là, on est bien.
Mais comme tu disais, c'est un avantage de ne pas être sous les feux de l'actualité. En bande dessinée, on peut se permettre de faire des trucs... en BD érotique ou en BD de tout style qui au cinéma choquerait ou ferait parler beaucoup mais pas d'une bonne façon.
Et surtout aussi on serait obligé de structurer beaucoup plus comme au cinéma avec mise en place des personnages, début, milieu, fin, climax, etc. On s'en fiche de ça. La bande dessinée, c'est l'endroit narratif actuellement en France, en tout cas, où on est le plus libre de faire ce qu'on veut. On a le graphisme qu'on veut, on a la narration qu'on veut. On est publié parfois, effectivement, on va être vendu à 200 exemplaires, 500 exemplaires, 1000 exemplaires. Mais on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. On aimerait mieux être vendu plus, mais on fait ce qu'on veut. On ne peut pas dire la même chose d'autres médiums narratifs.
Il y a aussi ce mouvement-là qui est important. C'est-à-dire que vous devenez vos propres éditeurs.
Mais en bande dessinée, ça a toujours été le cas. En 59, quand Charlier, Uderzo et Goscinny ont décidé de faire Pilote, c'est eux qui ont décidé. Après, ils se sont fait racheter rapidement par Dargo. Mais après, quand...
oui, les Humanoïdes associés, c'est la même chose.
Drouillet ont fait les Humanos. Quand Mandrika a fait l'Écho des Savanes. Quand Gottlieb a fait Fluide Glacial. Tout ça, c'était des mouvements d'auteurs. Donc on a une tradition de mouvements d'auteurs qui ont fait bouger les choses en bande dessinée.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des clic, crac, des zip, shibam, pow, blop, wheel. Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait, stop. Ou bien. Of the city, follow me, and just like a feather, and we'll fly along together.
Passionné de BD, j'accumulais les fonds de la bibliothèque de Charlebourg, en banlieue de Québec, et ils étaient d'ailleurs très bien fournis. Merci à eux de m'avoir ouvert les yeux sur pas mal de trucs, parce que notamment, après avoir lu Arzac et tous les trucs qui me plaisaient à mon âge, à un moment, je me suis dit, bon, je vais essayer le Barajo, donc la BD de Munoz et Sampaio, qui était là depuis longtemps et que personne n'empruntait. Et je l'avais vu souvent dans Pif ou dans je sais pas trop quoi, dans un suivre. Et j'ai toujours trouvé que c'était à chier. Et un jour, j'étais ado et je commençais à aimer, tu vois, le dessin un peu plus moderne. Je commençais à regarder du Autodix et des trucs comme ça. Et je suis tombé là-dessus et j'ai fait waouh, quoi, la lumière, l'esprit divin est tombé sur moi. Et j'ai compris à quel point c'était un grand génie du dessin et qu'il l'est toujours d'ailleurs. Et je le remercie d'avoir, d'avoir fait de la BD, d'avoir apporté ça à la BD, parce que graphiquement, c'est un monument. Et encore aujourd'hui, je reviens dessus, je me dis comment il fait pour dessiner ça. Parce que des fois, je me dis, tiens, je pourrais essayer de faire un espèce de plan avec une foule un peu bizarre et qui crie. Et je reviens sur les trucs de Munoz. Et je comprends toujours pas comment il fait, mais c'est toujours aussi fort, c'est toujours aussi évocateur et en même temps personnel. Et il est un de ces rares qui a pas pu être imité parce que c'est trop fort ce qu'il fait graphiquement. Et voilà, donc c'est simplement merveilleux. Et un jour, voilà, ça m'est apparu comme étant évident.
C'est, tu l'as rencontré ?
Oui, je l'ai rencontré et je lui ai dit tout le bien que je pensais de son travail. C'était quand il était président Angoulême, j'ai eu la chance de tomber dessus. Et j'en pleurais presque à lui raconter ça. Il était vachement humble et vachement content que je lui raconte cette histoire. Et il était
encore... Mais avant, tu l'avais rencontré parce que tu lui avais rendu un stylo.
Ah oui, voilà, ouais, il avait dessiné avec ce stylo et j'étais ému d'avoir le crayon par le maître Munoz.
Et toi, Louis, c'est quoi tes premières lectures ?
Bon, c'est comme tout le monde, hein, c'est le... Les Lucky Luke, les Astérix, les Tintins, les Spirou. Mais j'ai du mal à avoir des maîtres. J'ai des chocs, des chocs de lecture, effectivement. Je veux dire, quand j'ai découvert la première fois le petit cirque de Fred, il y a un moment où j'étais interloqué, je ne comprenais pas. Et j'étais là, je crois qu'il y a une force incroyable dans le dessin, dans la narration, dans l'histoire, et j'étais fasciné par ça. Un autre choc que j'ai pu avoir après, c'était Le Jeune Albert de Chaland, où j'étais scotché par la capacité d'humour, de décalage et de changement de ton d'une histoire à l'autre du personnage. Et je crois que c'est une des premières fois où j'ai pleuré sur une histoire. Un autre choc que j'ai pu avoir après, c'était Moebius, ou avant Moebius, avec le Garage Hermétique, avec cette liberté de ton qu'il avait de passer d'un truc à l'autre, cette qualité graphique, cette clarté dans le dessin, et cette liberté qu'il avait de raconter ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait, cette improvisation. Je pense que ce que j'ai continué à faire, moi, au début, quand j'ai fait Lapineau et les cœurs de Patagonie, qui était un album de 500 pages en improvisation, c'est uniquement parce que j'ai lu le Garage Hermétique à un moment et que ça m'a créé un choc. Donc effectivement, je passe de choc en choc et c'est ça qui me fait grandir. Après, des maîtres à penser, où j'ai pas envie d'être un copieur, j'ai pas envie de ce genre de choses là mais je pense que plus on est ouvert longtemps au travail des autres, plus on a des chances de bien vieillir.
Moi, c'est quand j'ai lu Maus de Spiegelman, bien sûr, où j'ai pleuré et je me dis, tiens, c'est quand même incroyable d'arriver à être aussi fort avec une bande dessinée. Et c'était un peu la réponse, Maus, à ce que se posaient beaucoup de gens à mon époque, de ma génération. C'est-à-dire, on peut faire autre chose avec la BD, on peut faire quelque chose de tellement fort. Et lui, il arrivait avec ça, c'était personnel, ça allait au-delà du personnel aussi. Et c'est, voilà, c'est un monument de la bande dessinée. Et pour beaucoup de gens de ma génération qui étaient après à l'association et qui aimaient ce genre de bande dessinée indépendante, ça a été vraiment une étape importante. C'est-à-dire que Mars est arrivé de nulle part et après, il n'y a pas eu de suivi comme il y a eu après avec les bandes dessinées de l'association où il y a eu David, il y a eu Lewis, il y a eu Marjane, il y a eu tout un paquet de gens qui ont fait qu'il y a eu une cristallisation. Alors qu'aux États-Unis, il y a eu ça et après, c'est tout. Et ça n'a pas continué. Hein.
Il a quand même fait le magazine Raw dans lequel il a commencé à publier des gens comme Chris Ware, Daniel Klops, etc. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu curieux et interloqué de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de mouvement comme il y a eu en France.
Et moi, dans les chocs que j'ai eus, il faut dire, ce qui m'a amené beaucoup à côtoyer et avoir envie de faire des trucs à l'association, c'était le livre de David Bay, qui est un des premiers que l'association a publié, sur lequel je suis tombé, c'était « Le cheval blême ». Où là, on voyait quelqu'un qui racontait quelque chose de conceptuel, c'est-à-dire il s'était dit « je veux raconter mes rêves, qui sont plutôt cauchemardesques ». Et ça a été après une ouverture sur tout le graphisme que l'association a proposé après. Ça a été vraiment le maître étalon du reste. Et moi, j'ai été en admiration devant ce livre. Et David B, pour moi, reste toujours quelqu'un qui est un grand de la BD. Ça a été une grande influence.
Dans les choses les plus récentes, moi, j'avais beaucoup aimé le Salade de Fluie de Mathieu Sapin, qui est un album qui est passé un peu inaperçu au Requin Marteau. Mais j'ai beaucoup aimé sa structure en parallèle avec plusieurs histoires qui se déroulaient et qui se croisaient de temps en temps. Ça a éveillé en moi pas mal d'idées par rapport à la façon de construire des histoires. Et il y a le Nicolas de Pascal Girard, qui est un Québécois, qui a un tout petit bouquin de rien du tout, publié chez Mécanique Générale. C'est un bouquin que j'ai dû le lire en deux fois. Pourtant, il devait faire quoi, 25 pages, 30 pages. À un moment, j'ai pris je lisais le bouquin et je l'ai jeté tellement je pleurais. Tellement je pleurais, je ne pouvais plus le lire. Je l'ai jeté et je l'ai repris quoi, genre, et j'ai encore des larmes dans les yeux quand j'en parle. Dans ma voix, vous voyez, dans ma voix, on le sent, et dans mes yeux, vous ne voyez pas, mais les autres qui sont à côté de moi, ils le voient. Et donc, j'ai dû le reprendre le lendemain pour le finir, tellement je trouvais ça fort. Après, mais là, on a mangé du loup, donc laqué, c'est ça?
Oui.
Avec une sorte de rouleau de printemps à côté, qui était très bien. Bonne cuisson. Guy, ça t'a plu?
Moi, je t'ai occupé à parler, alors j'ai avalé ça en deux...
espèce de sale Québécois, dis donc, va manger ta poutine.
Je reviens au naturel. L'accent devrait pas tarder à pointer. Mais c'est toujours un truc que j'ai admiré chez les Français, c'est-à-dire qu'ils arrivent à parler plus que moi pendant un repas et à manger plus vite que moi, ça m'épate. Et en même temps, à dire « ah oui, c'était bon » alors qu'ils avalent ça en telle vitesse.
Mardi prochain, même heure,
pour le deuxième volet de ce Mardi Miam Miam, consacré à Guy Delisle et Lewis Stronach.
Program to